reprendre ce que l'on a dit, c'est ce que l'on a dit sur le témoignage. Alors, c'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10. C'est le verset 14. Donc, et la suite. Hein. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. C'est jusqu'à ce verset. La question est bonne, c'est-à-dire que comment entendront-ils? Alors il y a une double réponse. C'est la première, c'est nous qui devons témoigner. Et la deuxième, c'est Dieu qui envoie les prédicateurs. Donc, quand quelqu'un est né de nouveau, eh bien, il est un prédicateur de l'Évangile. Non pas derrière un pupitre, mais il doit annoncer l'Évangile partout où il se trouve. Il doit être un témoignage vivant et actif de l'Évangile et dire clairement à quiconque que Jésus-Christ est le Sauveur et qu'il est mort pour les péchés de chaque être humain. Ça, c'est quelque chose de très très important. Il y a l'ordre du Seigneur Jésus-Christ, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, il n'a pas dit, il a dit à un groupe d'êtres humains, de disciples à un certain moment, mais cette parole, elle est plus loin que les disciples qui l'ont entendue, elle va jusqu'à nous, puisque cela a été écrit dans la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ a dit d'une manière confidentielle à ses disciples. Mais ça a été répété, et c'est Matthieu qui le dit, et donc, c'est quand nous le lisons, eh bien ce sont des paroles qui s'adressent à nous. Ce n'est pas seulement aux disciples, mais c'est à nous aussi. C'est allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est le grand ordre que le Seigneur Jésus-Christ a donné à son peuple. Notre grande responsabilité. Si nous passons à côté de cette responsabilité, nous sommes dans la désobéissance vis-à-vis de Dieu. Dieu a dit clairement dans sa parole que nous devions être des témoins, que nous devions faire des disciples. Faire des disciples, eh bien, c'est commencer par annoncer l'Évangile, c'est-à-dire amener des âmes à Jésus-Christ. Et quand on dit disciple, on a fait en français le mot disciple, il y a le mot discipline aussi. C'est quelqu'un qui agit comme un disciple, quelqu'un qui est discipliné. C'est bon, bien sûr, quand on parle de l'armée, on dit qu'elle est disciplinée, mais ne sont pas des disciples. Mais le mot lui-même, dans sa racine, il y a le mot disciple. Et quand un chrétien, quelqu'un est né de nouveau, eh bien, il doit être formé pour que il puisse amener d'autres à l'évangile et que les autres puissent amener encore d'autres à l'évangile. Il doit y avoir une formation. Non seulement on amène une âme jusqu'à l'évangile, mais on l'amène jusqu'à ce que cette personne devienne suffisamment adulte pour amener d'autres à l'évangile et qu'elle puisse transmettre le message et qu'elle rende d'autres capables, etc. Vous voyez le principe. C'est souvent, on s'est arrêté au fait d'amener une âme à l'évangile. Et c'est très bien. Mais c'est comme si vous aviez un bébé qui vient de naître et vous lui dites maintenant, eh bien, débrouille-toi. vous le mettez sur le trottoir, vous dire va gagner ta vie. C'est aussi sage que de mettre un jeune chrétien devant certaines responsabilités. Il faut le former et il faut qu'il devienne un disciple, afin que lui-même, eh bien, il puisse, d'une manière claire et simple, apporter l'évangile à d'autres. Et ce n'est pas quelque chose de facultatif. Je me rappelle, quand j'étais à l'école, le professeur mettait les devoirs obligatoires et les devoirs facultatifs. Et un jour, il s'est fâché parce que personne ne faisait les devoirs facultatifs. Alors, ils étaient facultatifs. Ils n'avaient pas à se plaindre. Mais annoncer l'évangile et former des disciples n'est jamais quelque chose de facultatif. C'est un impératif. Le Seigneur Jésus-Christ a donné ce commandement. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire que le travail commence par la conversion et se poursuit par la formation. C'est un disciple. Et c'est quelqu'un qui est capable d'amener d'autres à Christ. On en fait des pères et des mères dans le Seigneur. Quand on a bien formé quelqu'un, c'est le but. Hein, quand on se réunit, eh bien, on essaye toujours qu'il y ait un enseignement, que les personnes entendent les choses de telle manière qu'elles puissent vraiment transmettre à d'autres et qu'elles soient affermies dans la foi, qu'elles soient bien au courant des vérités spirituelles pour pouvoir les transmettre à d'autres. Donc, quand on a lu ce passage, comment invoqueront-ils? Comment pourront-ils crier à Dieu s'il n'y a personne qui va leur parler? Et ça, c'est la grande question que le chrétien doit se poser. Qui annoncera l'évangile si moi je n'annonce pas l'évangile? Qui va le faire si je ne le fais pas? Nous sommes chacun responsable pour nous-mêmes. Après, nous pouvons dire, oui, mais il y en a d'autres qui le font. Mais ça, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est quand Dieu dit, comment donc invoqueront-ils, hein, je pense à ce verset d'Ésaïe où le Seigneur a dit à Ésaïe, qui marchera pour nous? Et Ésaïe a dit, me voici, envoie-moi. Et alors quand nous entendons le message de l'évangile et que nous sommes sauvés, eh bien notre réponse est de dire, oh Seigneur, envoie-moi. Moi aussi j'aimerais annoncer l'évangile. J'ai été sauvé par grâce, j'ai été sauvé par un effet de la miséricorde, de ta miséricorde infinie, et je voudrais l'annoncer aussi. Donc il y a cette question que nous posons, qui ira si je n'y vais pas? Nous ne pouvons pas motiver quelqu'un d'autre si nous ne sommes pas motivés. Donc nous devons aller vers les âmes perdues parce que Dieu nous le demande et parce qu'ils sont incapables de connaître l'évangile si personne ne leur annonce l'évangile. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelait en philosophie le phénomène religieux. Voilà, il y a le phénomène religieux. Ça, c'est un grand sujet sur lequel on a écrit des multitudes de livres. C'est-à-dire que dans l'être humain, il y a une ressource spirituelle qu'il n'y a pas chez les animaux. Les animaux peuvent être même avoir un certain comportement qui est parfois, on dit, ils sont presque humains, mais ils ne sont pas humains. Parce qu'il y a ce côté religieux qu'il n'y a que dans l'homme. Il n'y a que l'homme qui lève les yeux vers le ciel et qui prie. Mais comment vont-ils connaître s'il n'y a personne qui annonce, personne qui donne des instructions? Quand nous lisons l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de peuples qui ont inventé des systèmes religieux. Parce qu'il y a l'histoire de l'humanité et il y a l'histoire religieuse de l'humanité. Ça, c'est des choses qui vont ensemble. Mais dès que vous arrivez à un moment donné de l'histoire humaine, Dieu s'est révélé. Dieu a parlé. Il a parlé par un homme. Il a parlé à un peuple. Et ce peuple a eu la responsabilité de transmettre et de préserver la parole qui avait été donnée. Et ensuite, il est venu l'Église. Et Dieu a transmis à son Église un message. C'est l'humanité sans Dieu ne produit que des religions, que des systèmes religieux. Parce qu'il y a dans l'homme une aspiration religieuse, mais sans intelligence, sans connaissance. Si personne ne va apporter la révélation que Dieu a révélée, eh bien, les gens n'auront qu'un système religieux, n'auront que des sectes, que des mouvements religieux, et même ils pratiqueront l'occultisme, parce que c'est une forme religieuse. Et pour pas dire que les autres religions, ce sont des formes déguisées de l'occultisme. Ça ne va pas aujourd'hui. Il y a toutes ces histoires de religion, c'est parce que l'homme cherche Dieu, le désir de Dieu, mais sans connaissance, sans révélation. Donc il est nécessaire que nous, qui avons connu l'Évangile, eh bien nous apportions cette révélation. Nous, nous sommes témoins parce que nous avons vécu quelque chose. Non seulement nous en avons entendu parler, non seulement nous avons reçu un enseignement, mais nous avons vécu cet enseignement. Et nous avons compris que nous étions morts dans nos péchés, que nous étions perdus, et que maintenant, eh bien, il y avait quelque chose qui est de nouveau dans notre vie. Nous sommes témoins. Nous devons rendre témoignage. Parce que l'être humain, normalement, sans révélation, ne peut produire que des sectes et des religions. Il est dit, comment invoqueront-ils si personne ne va témoigner? C'est parce que l'homme est incapable d'avoir la pensée qui vient de Dieu si Dieu ne s'est pas révélé. Et si ceux qui connaissent la révélation de Dieu ne la propagent pas. C'est impossible. Et il y a cet autre aspect, c'est que Dieu, eh bien, envoie. Et comment invoqueront-ils si personne ne va et s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Mais ils sont envoyés. Dès que quelqu'un est né de nouveau, il rentre dans la catégorie des personnes, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il rentre, il est sous ce commandement que le Seigneur Jésus-Christ a donné à ses disciples. Donc, ils sont envoyés, parce que Dieu a envoyé ses disciples pour annoncer l'Évangile partout dans le monde. Et dès qu'il y a un chrétien, il y a une possibilité de témoignage. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait un jeune homme à Paris qui un jour s'est converti. C'était dans les années 20 ou 30. Peut-être un peu avant même. Mais il y avait dans Paris des salles d'évangélisation que l'on appelait les salles Macrolles. C'était la mission populaire. Voilà. Alors ils annonçaient l'évangile constamment et il y avait toujours des réunions d'évangélisation dans ces salles. Toujours, toujours, toujours. Et un jour, ce jeune homme est entré dans une de ces salles. C'était un douanier. Il était en stage à Paris et il a entendu l'évangile. Et il s'est converti. Voilà. Et puis, il a été muté dans un petit village du sud de la France qui s'appelle Collioure. Voilà, tout simplement. C'est à côté de Bagneux-sur-Mer, hein. C'est à quelques kilomètres. Et jeune chrétien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé de Jésus-Christ comme son sauveur. Et vous savez ce qui s'est passé? Le village s'est converti. Vous allez à Collioure, bon maintenant peut-être plus, mais je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une vingtaine, une trentaine d'années, dans toutes les familles, il y avait une Bible. Il y a un temple à Collioure, un temple. Il y a un pasteur. Il y a des gens qui se réunissent tous les dimanches suite à un homme qui s'est converti à Paris et qui a annoncé l'évangile dans ce village. Et je me rappelle de quelqu'un qui m'a dit, oui, mais dans ma famille, il y a une Bible. Et ces personnes étaient en contact avec l'évangile et savaient exactement de quoi on parlait quand on annonçait l'évangile. C'est un jeune homme a fait la conversion d'un village. Et on raconte que c'était un village de pêcheurs. Maintenant, bon, c'est un village d'artistes, hein. Maintenant, vous avez des. Dans Collioure, partout, vous avez des boutiques d'artistes. Mais à l'époque, c'était des pêcheurs. Et ils pêchaient ce qu'on appelle au lamparo. C'est-à-dire qu'il y avait une lampe, ou plutôt trois lampes, à la tête de la barque. Et les poissons venaient à la lumière et ils attrapaient les poissons. Et toute la nuit, ils pêchaient comme cela. Et ils chantaient des cantiques. Et c'était une immense chorale sur la mer, tous ces hommes qui chantaient les cantiques, et le même cantique sur la mer, en pêchant leurs poissons. C'est simplement parce qu'une personne a obéi à l'ordre du maître. Le Seigneur a dit, faites de toutes les nations des disciples. Et un jour, toutes ces personnes ont dit, mais on est quand même tous chrétiens, on aimerait bien avoir un lieu de culte. Et on aimerait bien avoir un pasteur. Et ils ont fait appel au consistoire de Paris pour obtenir un pasteur. Et un pasteur est arrivé. Et vous savez, les églises catholiques, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Aujourd'hui, ce sont les caves coopératives. C'est pour ça que vous avez un bagnoul Templers, parce que c'était une cathédrale qui était plutôt templier. Donc, vous remontez comme ça et vous avez un peu plus en contrebas, vous avez la cave coopérative, c'est l'église catholique. Parce que les églises catholiques ont fermé les portes. Parce qu'il n'y avait plus de catholiques. Ils se sont tous convertis. Et je ne vous parle pas de quelque chose qui s'est passé au XVIe siècle, quelque chose qui s'est passé au XXe siècle. Très récemment. Ce n'est pas quelque chose qui est à l'autre bout du monde. C'est en France. Simplement, un jeune homme a été fidèle à ce que Dieu a dit. Il a témoigné. Il a compris que Dieu l'envoyait pour annoncer l'évangile là où il se trouvait. Alors, il n'a pas fait de la théologie, hein. C'était un jeune chrétien. Il connaissait suffisamment pour amener une âme au salut. Et il l'a fait. Il l'a fait avec fidélité. Avec persévérance. Je ne sais pas ce qui est devenu ce jeune homme, hein. Je n'ai pas suivi la suite de son parcours, mais ce que je sais, c'est que dans sa jeune foi, eh bien, il a amené un village au salut en Jésus-Christ. Et un village, à cette époque, c'était 2000 habitants. Et le village, à peu près, c'était 2000, 2500 habitants. Et tout le village s'est converti. Nous ne savons pas. Quand un jeune homme ou une jeune fille est vraiment consacré à Dieu, comment Dieu peut utiliser cette personne pour faire un miracle? Un miracle. Et nous, quand nous entendons de pareilles choses, on est émerveillé, on se dit, oh mais vraiment, qu'est-ce que c'est extraordinaire? Non, ce n'est pas extraordinaire, c'est normal. C'est normal. La vie chrétienne normale est une vie chrétienne simple. On fait ce que Dieu nous demande. Et on le fait avec fidélité et avec zèle. Et Dieu s'occupe des résultats. Les résultats, c'est Dieu qui les produit. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas l'homme. Mais cet homme était suffisamment dans la main de Dieu pour que Dieu puisse l'utiliser. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la première église. Les premiers disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et la même chose qu'a fait ce jeune homme. Ils ont annoncé autour d'eux que le Seigneur Jésus-Christ était mort pour leurs péchés. Ils ont témoigné. Et en témoignant, eh bien, ils ont amené des âmes au salut. Et c'est comme cela que l'Évangile s'est propagé dans la première Église. C'est dans cette simplicité, dans cette spontanéité que Dieu est glorifié. C'est dès que nous nous disons, Je suis peut-être pas très capable d'annoncer l'évangile. Je ne connais pas, je suis pas un bon théologien ou je ne. Dieu ne nous demande pas d'être un théologien. Il nous demande d'être fidèles. Et vous savez, la vie chrétienne, elle se marche un pas à la fois. Et c'est un pas d'obéissance après un pas d'obéissance. Et si vous n'avez pas fait le pas d'obéissance d'aujourd'hui, vous ne pourrez pas faire le pas d'obéissance de demain. Il faut faire le pas d'obéissance d'aujourd'hui. C'est une manière de parler. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'obéis, eh bien Dieu me donne la possibilité d'obéir sur d'autres choses. Et il y a des personnes qui voudraient brûler les étapes, être plus loin que ce qu'ils sont. Si on est sauvé et né de nouveau et réconcilié avec Dieu, notre première responsabilité, c'est de le faire connaître et de le dire. Après, on dit, oui, mais j'aimerais être un grand homme, une grande femme de prière. Commencez par être fidèle dans votre témoignage et priez. Et puis, avec le temps, au fur et à mesure, Dieu vous montrera davantage et vous donnera les possibilités d'être peut-être ce que vous espérez. Et peut-être pas. Vous serez peut-être autre chose. Mais Dieu vous disposera et vous montrera le chemin pour plus tard. Maintenant, ne brûlez pas les étapes. Le pas d'obéissance, c'est aujourd'hui. C'est pas demain. C'est toujours aujourd'hui. Et quant quelqu'un est né de nouveau, qu'il est réconcilié avec Dieu, son première réaction, c'est de le dire. C'est de le dire. Et c'est comme cela qu'il concrétise son salut. Parce que celui a prononcé les mots de la repentance et qui a fait une prière pour être sauvé et qui ne témoigne pas, est probablement pas sauvé encore. Je mets peut-être la barre un peu haut, mais je pense que c'est comme cela. Quand quelqu'un est vraiment né de nouveau, il le dit. Celui qui ne le dit pas, c'est qu'il ne l'est pas encore. On exprime ce qui s'est passé dans notre vie. On est témoin. Et si on n'est pas né de nouveau, eh bien on n'est pas témoin. On n'a pas envie de témoigner. C'est comme cela. Mais dès que nous avons reçu la grâce qui est en Jésus-Christ, eh bien on a envie de le dire. C'est quelque chose qui nous brûle, hein? Vous ne pouvez pas vous en empêcher. C'est pas possible. Ça fait partie de la vie chrétienne. Commencement de la vie chrétienne. Donc, c'était notre dernière méditation sur le témoignage, la nécessité de témoigner. Le témoignage, c'est une obéissance. Après, vous me direz, lire la Bible, prier, se joindre à une église régulièrement, c'est aussi de l'obéissance, bien entendu. Mais souvent, on dit la prière, la lecture de la Bible, se joindre à la communion fraternelle, c'est l'obéissance. Alors là, on est convaincu. Mais on n'est pas aussi convaincu que témoigner, c'est aussi l'obéissance et à la même hauteur, si je puis m'exprimer ainsi, que la prière, la méditation de la parole de Dieu et se joindre à la communion fraternelle. C'est se joindre dans une église et participer à la vie d'une église. C'est s'intégrer à une église. Ce n'est pas simplement être assis tous les dimanches dans une église. C'est vraiment participer à la vie de l'église. C'est ça aussi, hein, être dans une église. Mais bon, ça c'est la méditation suivante. Mais c'est vrai que le témoignage a une importance vitale. Parce qu'un chrétien qui ne témoigne pas, eh bien, il a commencé une mort spirituelle. C'est-à-dire qu'il n'est plus en communion avec Dieu. C'est-à-dire que tout en étant vivant, en étant né de nouveau, on ne peut pas perdre son salut, c'est impossible, mais on perd la communion avec Dieu parce qu'on ne marche plus dans l'obéissance. Et ça, c'est quelque chose de très important. L'obéissance, on peut être obéissant sur des multitudes de choses et manquer une chose sur laquelle dans la désobéissance. On dit on est presque complètement obéissant. Ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait obéissant. Il manque quelque chose. Et le témoignage, eh bien, c'est la partie la plus négligée de la vie chrétienne. C'est la plupart des chrétiens ne témoignent pas régulièrement et ne font pas connaître l'Évangile ou ne sont pas prêts à faire connaître l'Évangile dans toutes les situations où Dieu les place. On doit être toujours prêt à rendre témoignage, toujours prêt. Il y a des multitudes de gens qui sont autour de nous et qui sont perdus. Je me rappelle cet été, on a fait un camp biblique et on avait le privilège d'être avec d'autres chrétiens. Ils ne sont pas tout à fait de notre groupe, mais enfin, c'était des chrétiens. Comment témoigner? Il y avait des chrétiens. Eh bien, j'ai eu l'occasion de témoigner deux fois. Deux fois. La première fois, on a fait une sortie. Et moi, vous savez, les baignades, c'est pas mon truc. J'ai jamais aimé l'eau, j'aime pas trop me baigner. Donc, j'ai pris mon ordinateur, je suis allé, il y avait une petite buvette à côté, j'ai commandé un café et je me suis assis. Et puis, j'ai commencé à parler avec le gars qui vendait les cafés, et puis j'ai pu parler du Seigneur. Il habitait Toulouse, alors pour moi, c'est une bonne occasion. Je dis, ah oui, j'ai habité Toulouse. J'étais pasteur à Toulouse. J'étais à Tarbes, mais je logeais à Toulouse une partie de la semaine. Et oui, où vous habitiez? C'était à tel endroit. Hein. Maintenant, c'est plus la même chose. Et puis, de fil en aiguille, j'ai pu parler de l'Évangile et j'ai pu lui annoncer et puis lui laisser un Nouveau Testament. C'est alors que rien. Et on venait au milieu de chrétiens. Mais il y a des occasions. Et la deuxième fois, c'est un vendeur qui est venu, il vendait du miel et des tas de choses du pays, et des pruneaux d'Agen, etc. Et alors, je lui ai demandé s'il était né de nouveau, s'il avait fait la paix avec Dieu. Il m'a dit non. Pourtant, il était en contact avec des chrétiens, il avait entendu l'Évangile, mais je lui ai dit, mais pourquoi ne le faites-vous? Et je lui ai laissé un traité, un plan du salut. Même dans une situation où vous pensez que être prêt. Et là, vous savez, je n'avais pas de traité sur moi. Il a fallu que j'aille voir quelqu'un, lui dire, tu n'as pas un traité pour lui donner? J'avais des Nouveaux Testaments, mais je n'avais pas de traité. Je n'étais pas prêt. On doit être prêt à rendre témoignage et à dire ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Si le Saint-Esprit parle et dit, alors on y va. Cette personne est là, parle-lui. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais le témoignage est une nécessité.